Les douleurs de l'enfantement, première partie. Alors, nous allons bientôt partir en Israël. Et il est bon de connaître un peu plus l'histoire de ce pays, son évolution, son développement, comment les choses se sont organisées, comment le Seigneur a procédé, quelles étaient les prophéties qui accompagnaient le déroulement de toute cette histoire, comment le pays est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. On se rend compte que tout ça s'inscrit dans un plan divin. On va donc suivre un peu le déroulement de l'histoire afin de mieux pénétrer la pensée du Seigneur et comprendre le cheminement de cette pensée et comprendre aussi où le Seigneur il veut en venir, ce qu'il attend et pourquoi il agit de cette manière-là et pas d'une autre. Israël en tant que nation a été créée en 1948. Il y a eu une succession de guerres qui progressivement leur approchait toujours plus de Jérusalem jusqu'à sa conquête en 66, je me souviens bien. Donc pendant toute cette période, progressivement, Israël a conquis des territoires et surtout la ville de Jérusalem qui est devenue la capitale de l'Israël. Et pour moi, au fur et à mesure qu'Israël grandissait en puissance, en stature, au fur et à mesure qu'Israël prenait de la substance, devenait un corps constitué, en même temps, au sein des nations, l'esprit déclinait. Et le basculement, moi je le situe dans les années, fin des années 60, début des années 70. Et on le voit particulièrement bien aux États-Unis, parce que si le réveil de Pentecôte a commencé en Californie, s'est diffusé à travers les États-Unis, ça a apporté aussi une ère de prospérité aux États-Unis, ça a apporté un changement profond dans les mentalités. C'est ce qui a permis aussi aux États-Unis de devenir une grande nation, une hyperpuissance qui était imbattable. Jusque dans les années 70, les États-Unis, on n'en fait que grandir. Ils se sont investis dans la Première Guerre mondiale, et surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont acquis leur statut définitif de grande puissance. Puisque là, ils ont mené simultanément deux guerres, une contre l'Allemagne et l'autre contre le Japon, et ils en sont sortis vainqueurs, grandis, et immensément riches. Parce que les nations qu'ils ont soutenues, après, on payait les dommages aux Américains qui ont fourni du matériel, etc., etc. Ils l'ont bien rendu avec le plan Marshall qui a permis la reconstruction de l'Europe, mais définitivement boulonnait, si on veut, les États-Unis comme étant la grande puissance du moment avec l'URSS. Donc le monde était grosso modo partagé en deux, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'URSS. Mais on peut dire que l'ère de prospérité, de puissance et d'autorité qui s'est développée aux États-Unis pendant le XXe siècle est une des conséquences un petit peu du développement de la Pentecôte. Et ça s'est fait jusque fin des années 60, début des années 70. Après ça, quelque chose de nouveau qui s'est produit, c'est le statut d'Israël a évolué. Cette nation a commencé à devenir vraiment une pierre pesante pour le monde entier. Il y a eu une succession de guerres jusqu'à ce que la Jérusalem ait été conquise, et les Arabes, toujours plus en colère contre ce pays. Et dans les années 70, quand il y a eu la guerre du Kippour, quand d'un côté la Syrie et de l'autre côté l'Égypte ont attaqué Israël, que le Seigneur est intervenu, qu'il a bloqué les armées, et puis que ces armées ont été anéanties par Israël, les Arabes, foudrage, ont multiplié le prix du pétrole par 4. Et à partir de là, les choses ont commencé à changer. Le monde occidental est rentré en récession. Les temps de prospérité, les 30 glorieuses, les moments où, dans le monde occidental, on était porté par une économie qui était florissante, c'était fini, c'était terminé. À partir de ce moment-là, la richesse a commencé à décliner. À partir de ce moment-là, la croissance qui était de 5-6% pendant des années, pendant presque 30 ans, a commencé à se réduire. Donc, on devenait de moins en moins riche. Et après ça, 30 années sont venues, après les 30 glorieuses, comme on l'appellerait les 30 piteuses. Pourquoi ? Parce que chaque décennie, à chaque fois, apportait un poids supplémentaire dans les contraintes et dans les problèmes sociaux, économiques et toutes ces choses-là. Et ça a commencé avec les premières mesures de rétorsion de la part des pays arabes. Et puis après ça a continué parce que de nouvelles puissances ont commencé à émerger. Il y a eu la Chine, il y a eu pas uniquement les pays du Moyen-Orient, mais l'Amérique du Sud, etc., etc. Plein de pays ont commencé à prendre une dimension nouvelle. C'est-à-dire le poids de l'Amérique, à partir de ce moment-là, a commencé à décliner. Et ça, c'est concomitant au fait que l'esprit de Pentecôte, progressivement, se retirait de ce pays, s'éteignait. Et on le voit à travers leur culture, il suffit de regarder leurs films, hein, entre ce que Hollywood produisait, on peut dire jusque dans les années 60, et ce qu'il produisait après, jusqu'à maintenant, clair que l'état d'esprit a fondamentalement changé. Et donc, de temps en temps, pour me ressourcer, j'aime bien me replonger dans les écrits des pasteurs de ces moments glorieux, hein, où la Pentecôte grandissait encore. C'est-à-dire, et Witness Lee, Wilkerson, tous ces gens-là qui, dans les années 50, 60 ou même avant, écrivaient, prêchaient, enregistraient. Et si aujourd'hui on veut trouver quelque chose de spirituel, si aujourd'hui on veut trouver quelque chose de consistant, de fort, on le trouve souvent chez ces personnes. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et donc, je vais me replonger un petit peu dans le passé, voir un petit peu ce qui s'écrivait là dans les années 60, ça ne peut pas faire du mal. Il faut toujours rester prudent, hein, parce que la connaissance a énormément progressé. Aujourd'hui, grâce à Internet, les livres, toutes ces choses-là, on a accès à une base de connaissances qui est nettement supérieure, c'est sans commune mesure, avec ce que ces gens ils avaient. Ces gens s'appuyaient sur leur propre connaissance, la connaissance de la Bible, quelques livres qu'ils lisaient. Aujourd'hui, avec Internet, on a une vision globale sur tout ce qui existe dans le monde. C'est comme si toutes les bibliothèques du monde étaient ouvertes, et donc c'est extrêmement facile de contrôler, de faire des recherches, ceci et cela, ce qui nous donne naturellement un point de vue, un aperçu qui est différent. On se rend compte quand même que le Saint-Esprit dirigeait ces gens-là. S'ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont quand même aussi fait beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses. La preuve, c'est qu'ils sont arrivés jusqu'au réveil de Pentecôte. C'est bien la démonstration que la technologie ne peut pas tout, le savoir ne peut pas tout, mais que l'esprit, lui, il peut tout. Mais c'est aussi à nous, maintenant, de prendre le relais, de poursuivre ce chemin, et de voir et de voir où on va avec le Seigneur. On sait, aujourd'hui, avec le temps, que notre monde bouge, se développe, prend une dimension nouvelle, que l'Europe est en train de se façonner autour de nous, que cette Europe représente ce qui, dans l'Apocalypse, est considéré comme la septième tête, hein, de la bête qui sort de la mer, c'est-à-dire la reconstitution de l'Empire romain, et que l'âme politique, que la pensée spirituelle qui permet cela, qui donne la dynamique à la reconstitution de l'Empire romain, c'est la République française. La République française, c'est le moteur, si on veut, politique de l'Europe. C'est elle qui prend les initiatives, c'est elle qui tire un peu tout le monde derrière, qui essaye d'entraîner les Allemands. On parle toujours du couple franco-allemand, c'est surtout dans l'économie, mais dans la pensée politique, c'est-à-dire ce qui donne les institutions, ce qui donne la dynamique, ce qui donne les orientations, c'est la France. La France est vraiment le cœur, la pensée, le cerveau, la tête qui dirige toutes ces choses-là. Il paraît logique que c'est de France que sort la contrepartie spirituelle. Si le diable il a agi dans ce pays pour le conduire, on peut aussi imaginer que c'est de ce pays que vient la contrepartie, que vient la contre-offensive. Ce qui quelque part est logique, parce que ça équilibre les plateaux. Et que donc, dans notre pays, tu as donc un mouvement qui se fait, un mouvement général, qui est un petit peu la continuité de ce qui s'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, quelque chose est né, et traverse l'Atlantique pour arriver chez nous, pour retourner en Israël. C'est un peu comme le mouvement du soleil. Hein. Quelque chose est parti d'Israël, a illuminé le monde et allé se coucher aux États-Unis avec la Pentecôte. Il y a eu différents réveils qui se sont faits en Europe jusqu'aux États-Unis. Et aujourd'hui, tout ça repart de nouveau dans l'autre sens. Ça traverse notre pays pour aller jusqu'en Israël. Et donc là, si de France sort un puissant mouvement antéchrist, on peut aussi penser que de France sortira un profond mouvement de réveil, un profond mouvement qui contrebalancera l'esprit antéchrist. On voit ça au travers, il suffit simplement de regarder un peu autour de nous. Il y a une myriade de petites églises qui existent, il y en a tout plein, et parmi toutes ces églises, il y a disséminé à droite à gauche des personnes qui sont vraiment des personnes d'exception. Même si moi, personnellement, je ne suis pas pour tous ces pasteurs qui sortent un petit peu du moule, et qui disent tous la même chose et pensent la même chose, mais dans ces églises, il y a quand même des personnes d'exception. Dans ces églises, il y a quand même des personnes qui sortent du lot et qui ont un profond témoignage en Christ. Et ça, c'est aussi l'œuvre du Seigneur. Et moi, je pense que notre pays a un rôle à jouer dans le sens où le Seigneur veut s'appuyer sur les chrétiens qui sont dans ce pays pour contrebalancer les puissantes forces antéchrist qui ont tendance à rayonner un petit peu partout en Europe. Dans Jean 16, verset 20, on peut lire ça. « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, et votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Le monde va changer, que le royaume de Dieu va venir, et que les choses qui vont venir, on peut les comparer aux douleurs de l'enfantement, aux douleurs de la femme enceinte. Ça va apporter un monde nouveau. Un monde nouveau va naître. Si un monde nouveau vient, ça veut dire que l'ancien disparaît. La première douleur qu'on a connue, c'était la Première Guerre mondiale, c'était la première contraction violente que le monde a connue, parce que ça touchait beaucoup de monde, et puis après il y en a eu une seconde, c'était la Seconde Guerre mondiale, c'était une autre douleur, une autre contraction que le monde a connue, et la succession de ces contractions, la succession de ces douleurs amène au royaume de Dieu, amène à un monde nouveau, à la naissance d'un monde nouveau. On va étudier ça avec de nouveaux supports dans la parole de Dieu, et puis les développer. En 1 Thessaloniciens 5.3, on peut lire ça. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et n'y échapperont point. Dans Apocalypse 12, 2, on lit ceci. « Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » D'un côté, on parle du monde, et de l'autre côté, on parle de l'épouse. On se rend compte que le Seigneur compare ça à une femme enceinte. D'un côté, le monde dit paix, paix, sécurité. Ah, maintenant, grâce aux actions que nous avons entreprises, grâce aux mesures que nous prenons, il n'y aura plus de guerre. Nous allons rentrer dans une nouvelle ère de paix et de sérénité. Et là, le Seigneur nous dit, bah, quand les gens diront ça, une ruine soudaine les surprendra, exactement comme une femme qui est enceinte et qui s'y attend pas. Ah, d'un seul coup, j'ai mal. Et puis elle sent que le temps approche, que maintenant le moment est venu de la délivrance, que son enfant va naître. Un monde nouveau va naître. La même chose avec l'épouse. L'épouse de Christ, elle, de manière concomitante, au même moment, va subir exactement la même chose. Nous avons là le monde qui va accoucher d'un monde nouveau, et de l'autre, l'épouse qui va acquérir un statut nouveau, qui va, elle aussi, accoucher. On sait que le statut de Christ va changer. D'agneau immolé, il va devenir le maître avec une verge de fer dans la main. Maintenant, ces choses s'inscrivent dans l'histoire du monde. Le Seigneur nous a donné, dans une parabole, un schéma un peu directeur qui dévoile comment ces transformations vont s'opérer, comment ce monde nouveau va apparaître, comment cette naissance va s'opérer. Dans Luc 21-29, Jésus nous dit ceci, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier. Le figuier représente Israël. Et tous les arbres, c'est-à-dire toutes les autres nations. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Autrement dit, sachez que l'enfantement d'un monde nouveau est proche. Et donc, vous serez dans les douleurs de cet enfantement. Vous sentirez les contractions, vous sentirez les douleurs. Vous voyez le figuier et tous les autres arbres. Vous saurez donc que le moment est proche, que le moment de la naissance est proche. Là, je mixe les deux paraboles. La prophétie, les versets 29 à 31, où Jésus reprend l'image du figuier, dépeint le réveil national d'Israël. Dans ce passage, Il ajoute la mention « et tous les arbres », allusion indéniable à un phénomène contemporain coïncidant avec la restauration d'Israël et celui concomitant du réveil du nationalisme chez de nombreux peuples. Il se passe quelque chose simultanément dans le peuple de Dieu et au niveau des nations. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre génération et dans celles qui nous ont précédés? Comment l'histoire s'est-elle développée dans cette parabole? Le Seigneur a un sens du raccourci qui est extraordinaire, là, en deux, trois phrases. Et quelques mots, c'est deux siècles d'histoire qui sont résumés. Qu'est-ce que c'est le nationalisme? Que représente le nationalisme? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que représente le nationalisme dans les Écritures. C'est-à-dire, là où on en parle, là où on parle des nations. Là où on parle des nations, c'est en Apocalypse, principalement quand la bête se réveille, quand la bête sort de la mer, quand l'Empire romain se reconstitue. Donc là, nous avons un petit peu un coin géographique. L'Empire romain, c'est l'Europe, c'est l'Afrique du Nord. Donc, c'est cette zone qui m'intéresse. C'est là que je vais développer mon sujet, principalement, parce que ça touche Israël, forcément, et ça parle de ce monde qui se transforme pour arriver à ce qu'on va retrouver dans Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Les nationalismes en Europe. Avec le XVIIIe siècle, l'esprit des Lumières donne naissance au concept de peuple et de nation, défini par leur identité, par opposition à la notion du royaume défini par son souverain et ses frontières, et souvent par sa religion. Nous avons donc avant des monarchies dans le temps, et on va basculer maintenant vers des républiques, vers des démocraties. Les Français, les premiers que leur révolution de 1789 oppose à toutes les monarchies d'Europe, se battent en tant que Français et non en tant que sujet du roi de France. C'est la naissance du nationalisme moderne. Celui-ci se répand dans toute l'Europe au cours du XIXe siècle. Il attire particulièrement les populations occupées par un autre État ou divisées en plusieurs États. C'est ainsi que l'idée nationale se répand dans les populations divisées entre plusieurs États, en Allemagne et en Italie, ainsi que dans les populations occupées de la Pologne, de l'Irlande ou de la Hongrie. Ce sont des exemples, les plus connus. Inévitablement, l'idée nationale finit par toucher une autre population européenne privée d'État et même de territoire, les Juifs. Bon, on a deux choses. Une, c'est les gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture, voire la même religion, qui se réveillent en tant que nation. Ils sont plus sous la domination d'un homme, mais ils sont l'expression d'un peuple. C'est une nation qui se révèle au travers de sa population. Mais au milieu de tout ça, au milieu de toute cette mouvance, eh ben, quelque chose frétille, remue, commence à prendre forme. Eh ben, c'est la nation juive, la nation des Hébreux. C'est la future terre d'Israël qui prend naissance au travers de ses enfants. Avant même que ça existe sur la carte du monde, c'est quelque chose qui va prendre naissance dans les cœurs des Juifs. Et ça, principalement des Juifs d'Europe. Comment cette idée se développe-t-elle? Les choses ne vont pas se faire brutalement. Ce n'est pas du jour au lendemain que les Juifs vont venir et dire « Ben voilà, on veut une terre ». Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est fait progressivement par étapes. C'est une idée qui s'est progressivement inscrite dans les cœurs des Juifs. C'est venu grâce à l'attitude qu'avaient les bons chrétiens, hein, qui n'ont pas arrêté de les persécuter, de les massacrer, de les traiter comme des moins que rien. Donc forcément, au bout d'un moment, ils en avaient plus que marre. Ils se sont dit, il faut que ça cesse. Et plus la pression grandissait sur eux, c'est-à-dire plus les douleurs devenaient intenses au sein du peuple juif, et plus ils aspiraient à la naissance d'une vie nouvelle. Donc, on peut, en observant un peu ce qui se passe chez les Juifs, en observant comment les choses se sont développées au travers de ce peuple, on peut se faire une idée de la manière dont les choses vont se développer dans le monde entier. Observons la nation d'Israël, regardons comment les choses se sont passées, et par projection et par développement, on peut s'imaginer, on peut se faire une idée de la manière dont les choses vont se passer pour le monde entier. Alors, j'ai résumé au maximum, parce que la chose est très étoffée. On peut retrouver ça très très facilement sur Internet. Taper histoire du peuple juif, ou taper sionisme, Israël, toutes ces choses-là, sur Google. Et puis, ça dégringole de tous les côtés. Il y a 1000 sites, principalement Wikipédia, qui est très bien fait, où vous trouvez tout en long, en large et en travers, de manière très détaillée. Moi, je ne peux pas lire un livre complet. Hein. J'ai extrait de ça les choses les plus importantes, et c'est ce qu'on va prendre maintenant. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment l'idée, une prise de conscience en tant que nation, en tant que peuple, s'est faite chez ces Juifs qui étaient dispersés dans le monde pour arriver finalement à la naissance de la terre d'Israël. Donc, on va parler maintenant des Juifs et du sionisme. Le sionisme est une idéologie politique nationaliste. Donc là, on se retrouve un petit peu dans ce qu'on avait vu avant, dans la parabole du figuier, la naissance du nationalisme. Et ça, c'est quelque chose qui a pris corps aussi au sein du peuple juif. Le sionisme est une idéologie politique nationaliste, apparue au XIXe siècle et qui entend permettre aux Juifs d'avoir un État. Une attitude hostile aux Juifs n'est pas nouvelle. Pour les chrétiens, les Juifs avaient fait crucifier Jésus et surtout refusé la nouvelle religion chrétienne. Donc parce que les Juifs restaient attachés à la loi, parce que les Juifs s'étaient endurcis, et puis, enfin du moins, la plus grande partie, hein, parce que les apôtres étaient juifs, c'était quand même eux qui étaient à la naissance de la nouvelle religion, comme on parle là, mais c'est vrai que dans la diaspora, la plus grande partie des juifs sont restés attachés à la tradition et ont perpétué la loi de Moïse et sont restés bloqués, littéralement figés, frigorifiés, congelés dans les idées qui appartiennent désormais à un autre temps. Ils n'ont pas compris qu'en Christ, le Messie était venu, que Dieu lui-même était venu en tant qu'homme vers son peuple. Et ce faisant, ils se sont coupés spirituellement de leur base, c'est-à-dire de Dieu, et se sont enfoncés dans une idéologie qui les a conduits à être au banc de l'humanité. Mais le Seigneur a changé ça. Le Seigneur a dit qu'ils seraient dispersés, mais le Seigneur a aussi dit qu'il les ramènerait, qu'il les rappellerait, qu'il se souviendrait de Sion, qu'il se souviendrait des Juifs. En 1873, une nouvelle terminologie apparaît, l'antisémitisme. Le mot est dû à un journaliste de Hambourg, Wilhelm Marr. L'antisémitisme se veut une idéologie nationaliste et laïque moderne, rejetant les Juifs non plus pour des raisons religieuses, mais parce qu'ils seraient un peuple sémite, moyen-oriental, inassimilable en Occident. Donc on considère les Juifs pas comme des Occidentaux, mais comme des sémites, hein, c'est des moyen-orientaux, des Arabes, et ces Arabes n'ont rien à faire chez nous. C'est absurde, parce que comme ça fait 2000 ans qu'ils sont disséminés à droite à gauche dans le monde, il est clair qu'en 2000 ans, ils sont largement intégrés dans la population locale, que ce soit en Afrique, en Asie, ou en Occident, en Europe. Donc si au bout de 2000 ans, on ne fait pas partie des Européens, je ne sais pas qui est Européen, hein, voilà, quelque part, bon, ça montre bien l'esprit, hein, que l'esprit absurde, que c'est un esprit antéchrist, c'est un esprit qui lutte contre le peuple de Dieu, et que l'antisémitisme ne peut pas reposer sur quelque chose de cohérent, mais que c'est vraiment derrière ça le diable qui agit pour anéantir les Juifs, pour les éliminer. Donc l'antisémitisme en tant que nationalisme, c'est une stupidité totale et complète, parce qu'un Juif qui vit depuis 2000 ans en Europe, dire qu'il ne fait pas partie de l'Europe, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. au-delà de cet antisémitisme, de cette innovation, les préjugés traditionnels chrétiens contre les juifs sont largement repris. L'antisémitisme et l'hostilité aux juifs se répandent largement autour des grandes concentrations juives d'Europe orientale. Selon la thèse de Léo Pinsker, ce serait l'intégration progressive des juifs dans la vie moderne qui aurait provoqué cette réaction. Les juifs n'étaient pas aimés, mais ne gênaient guère quand ils vivaient à part. Tant qu'on les mettait dans les ghettos, ça allait. À partir du moment où les ghettos ont disparu et qu'ils se sont diffusés dans la population, un puissant esprit antisémite, qui est un esprit antéchrist quelque part, s'est mis en place et a commencé à se développer. On peut dire qu'avec l'idée du sionisme, qui finalement était un esprit nouveau que le Seigneur faisait souffler sur son peuple, un esprit anti-sionique s'est mis en place, a soufflé de la part de l'adversaire. Forcément, pour contrer l'action de Dieu, le diable a agi spirituellement afin que le Seigneur ne puisse pas œuvrer au travers de son peuple. À compter de leur pénétration progressive dans le monde moderne, ils deviennent des concurrents directs et beaucoup plus visibles. En 1880, des pogroms sanglants se produisent dans l'empire tsariste contre les juifs. Pogroms, on les attaque, on veut s'en débarrasser, on les tue, on brûle leurs maisons, on les pille, on pille leurs magasins, voilà. Et ça, c'était déjà en 1880. Et ça, c'était... dans les pays de l'Est, chez les Slaves, beaucoup d'entre eux ont conclu qu'il n'y a pas d'avenir pour les Juifs en Europe orientale. C'est le début d'un grand mouvement d'émigration qui mènera 4 millions de Juifs d'Europe orientale à quitter cette région entre 1880 et 1931. Donc il y a déjà un énorme mouvement qui se fait en Europe orientale, donc dans les pays de l'Est. La conséquence des pogroms chez les juifs, de cet antisémitisme chez les juifs, pousse cette population à partir. Il y a un mouvement de fond qui commence à se faire. Et pas petit, c'est massif. 4 millions de juifs partent, ce qui est énorme. Après les sanglants pogroms de 1881, un médecin d'Odessa, Léon Pinsker, publie à Berlin en septembre 1882 Auto-émancipation, le premier vrai manifeste sioniste. Le terme n'existe pas encore, il l'invente, il commence à développer cette pensée, cette idée nationaliste. Il y prédit que la judéophobie, c'est son terme qu'il utilise à l'époque, ce n'est pas encore l'antisémitisme, il dit la judéophobie, ira croissant au fur et à mesure de la modernisation des sociétés européennes. Et au fur et à mesure que les Juifs sortant du ghetto se retrouvent en concurrence avec leurs voisins, il en conclut que les Juifs doivent quitter l'Europe et créer leur propre État. Il est à noter qu'ils ne le revendiquent alors pas forcément en Terre Sainte. Donc l'idée de base, c'est plus on sera intégré dans la population, dans nos métiers, dans notre culture, en tant qu'artiste, en tant que médecin, en tant que tout ce qu'on veut, et plus on le rejettera parce qu'on est Juif. Donc ça ne sert à rien, on ne nous aimera jamais. Alors autant qu'on essaye de se trouver une terre à quelque part. Et à ce moment-là, l'idée, ce n'était pas du tout de retourner en Terre Sainte, de retourner vers Jérusalem, bien que à chaque pécha, on prie pour ça, enfin du moins les juifs prient pour ça, c'est-à-dire retourner vers Jérusalem, ils espèrent ça, ils attendent ça, le retour. Mais à cette époque-là, en 1880, l'idée c'est on aimerait bien une terre, mais pas forcément le retourner de nouveau en Israël. C'est n'importe où, l'Ouganda, là on nous donnerait quelque chose, là on peut prendre quelque chose et on ira s'installer du moment qu'on nous fiche la paix et qu'on ne traite plus en sous-zone. En 1894, ce journaliste hongrois assiste à Paris à la dégradation du capitaine Dreyfus. En fait, là maintenant je parle de Théodore Herzl. Alors lui c'est encore un grand personnage, enfin c'est devenu un grand personnage, parce que c'est lui qui a imposé chez les juifs l'idée du sionisme. Alors comment est-ce qu'il est arrivé à ça? On va suivre maintenant la progression de ce personnage et comment il va imposer au peuple juif l'idée du sionisme. En 1894, ce journaliste hongrois assiste à Paris à la dégradation du capitaine Dreyfus sous les cris de « Mort aux Juifs ». Il indiquera a posteriori que cette situation avait été un choc pour lui, sans que son journal, pourtant riche en introspection et fourmillant de références historiques, ne présente un quelconque indice de la centralité de l'affaire Dreyfus dans le réveil de l'identité juive. L'Autriche était un pays où l'antisémitisme était développé, mais la France était censée être immunisée contre l'antisémitisme. C'était le pays qui, le premier au monde, avait donné une totale égalité civique aux Juifs en 1791. Donc la Révolution avait libéré enfin les Juifs du carcan de l'Église catholique qui les piétinait, qui les foulait aux pieds en les considérant comme des sous-hommes. Et comme la Révolution en avait profité pour faire le ménage avec l'Église et faire la séparation entre l'État et l'Église, ça libérait les Juifs. Et donc, pour les Juifs, la France, le pays de Cocaïne, enfin on le reconnaissait comme des êtres humains. C'était aussi le pays qui avait donné la nationalité française aux Juifs indigènes d'Algérie en 1871. Le décret Crémieux. Elle représentait la modernité occidentale en marche vers plus d'égalité. Enfin, je faisais abstraction de la religion, enfin, l'esprit laïque arriver à concrétiser dans les faits ce qui est finalement la base de la citoyenneté. Je dis, c'est pas parce que tu es juif que tu es retranché de la nation, tu es né français, on s'occupe pas de ta religion, tu es considéré comme un français à part entière. Ça, c'était carrément une révolution dans les mentalités. Hein, parce que on pense que pendant 1000 ans, le juif a été traité comme la vermine par l'Église catholique, hein, qui se faisait un véritable plaisir de régulièrement les massacrer. Là, enfin, la Révolution ayant chassé du pouvoir et la monarchie et la puissance des papes, et de l'autorité des papes, du coup, ça a libéré les juifs. Hertz avait tiré comme conclusion de sa déception qu'il était illusoire pour les Juifs de chercher leur salut dans l'assimilation et qu'ils devaient posséder leur propre État, refuge pour tous les Juifs persécutés. L'affaire Dreyfus, finalement, a révélé quoi? L'affaire Dreyfus a révélé que dans les cœurs persistait un profond sentiment antisémite. Que même si la République proclamait le juif comme étant un Français à part entière, il y avait quand même encore des relents catholiques, et qui dit catholicisme dit antisémitisme. Moi, je décorrèle pas les deux choses, hein. Pour moi les deux choses sont intimement liées, même si aujourd'hui le pape va faire son cinéma en Israël, et puis il va se balader à droite à gauche en disant qu'il se réconcilie avec les juifs. Ça m'avait bien rigolé, parce que la tradition, le passé nous montre que c'est pas vrai. Si aujourd'hui ils font tout le cirque, pour moi c'est la représentation théâtrale, c'est pas ce qu'ils ont dans le cœur, c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de s'accommoder du fait qu'aujourd'hui un État d'Israël existe, obligés de s'accommoder du fait que le monde a évolué sans eux, bon gré, mal gré, ils acceptent les choses telles qu'elles sont, mais on ne pourra jamais avaler, moi, que l'Église catholique considère les juifs comme étant des personnes normales. Ils sont obligés de le faire. Et donc, ce sentiment antisémite qui est dans le cœur du catholicisme, la Révolution n'a pas réussi à le gommer. Et donc, il a perduré cet esprit antisémite. Et il a continué, malgré la Révolution, il a persisté dans les cœurs. Et ça, c'est ressorti au travers de l'affaire Dreyfus. Je rappelle que l'affaire Dreyfus, c'était un officier français qui a été accusé d'espionnage parce qu'il était juif. Et en fait, c'était pas vrai, c'était pas du tout le cas, mais ça a quand même montré que l'antisémitisme résistait, était toujours encore présent en France. Et ça a profondément affecté Theodor Herzl, et puis naturellement tous les juifs dans le monde. On espérait tellement de la France, et finalement on se rend compte que c'est pas vrai, hein, que la France n'est pas ce qu'elle paraît être, que dans les cœurs, ils sont toujours encore antisémites. Donc, en 1895, il adhère à la thèse du sionisme. Et le 15 février 1896, il publie Der Judenstaat, c'est l'État des Juifs, un livre dans lequel il appelle à la création d'un État pour les Juifs. Espérant le soutien des grandes puissances, il le fait en tentant de se placer dans la continuité des idéologies coloniales de l'époque. Pour l'Europe, nous formerons là-bas un élément du mur contre l'Asie, ainsi que l'avant-poste de la civilisation contre la barbarie. En 1897, Hertz convoque à Bâle, en Suisse, le premier congrès sioniste mondial. Il aurait souhaité que toutes les communautés juives envoient des représentants. En fait, le congrès est un succès limité. Hertz est encore peu connu, et sa capacité d'attraction l'est donc aussi. Fait révélateur des oppositions religieuses, le premier congrès sioniste ne put être tenu à Munich à cause des protestations indignées du rabbinat allemand. Ben oui, quand même un paradoxe qui est cultivé chez les juifs, c'est que pour beaucoup de rabbins, si les juifs ont été dispersés à travers le monde, c'est parce qu'ils se sont révoltés contre l'Éternel. Et que donc, le châtiment qu'ils subissent, c'est un châtiment qui est juste. Le simple fait d'imaginer qu'on puisse retourner en Israël, c'est interprété par beaucoup de rabbins comme se révolter contre la décision divine, c'est comme si on rejetait la volonté de Dieu et qu'on s'oppose à son action. Et ce qu'ils ne voient pas, ces gens-là, c'est que le Seigneur a effectivement dispersé les Juifs parce qu'ils se sont révoltés contre lui, parce qu'ils se sont opposés à leur Messie, mais ce n'est pas quelque chose qui va durer éternellement. À un moment donné, le Seigneur pardonne. À un moment donné, le Seigneur se retourne de nouveau, comme il l'avait fait dans le passé, quand il avait emmené les Juifs à Babylone, il ne les a pas laissés à Babylone, il les a ramenés de nouveau. Mais là, c'est exactement la même chose. Pendant 2000 ans, ils ont été dispersés dans le monde, mais au terme de ces 2000 ans, au terme du temps qui a loué aux nations, le Seigneur se retourne de nouveau vers son peuple et le ramène à lui. Et la manière de le montrer, c'est de les ramener de nouveau vers Jérusalem. Revenez vers Sion, revenez vers moi. Parce que mon berger, il rappelle son troupeau et qui dit maintenant vous revenez dans la bergerie. Maintenant, les fondements du sionisme étant posés, ça c'est pour le peuple juif, autour, le monde, lui, commence aussi à se transformer. En 1914 commence la Première Guerre mondiale. Elle aura un impact décisif sur le succès du sionisme. Pourquoi ça? Parce que le monde a commencé à se transformer. Mais, au Moyen-Orient, il y avait un immense empire qui était l'empire ottoman, les Turcs. Ça partait de la Turquie et puis ça absorbe tout le Moyen-Orient, le Maghreb. C'était un bloc, tout ça. Et la Première Guerre mondiale va complètement changer ça. Et c'est extrêmement important. Ça aura un impact immense sur la suite des événements. Les Ottomans entrent en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche, et donc contre la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Empire tsariste. Chacune des quatre puissances opposées à l'Empire ottoman a des visées territoriales sur celui-ci, de façon plus ou moins officielle. Les Italiens y visent certaines îles de la mer Égée. Les Russes visent le détroit des Dardanelles, le verrou de la mer Noire. Les Français visent le Liban et la Syrie, où ils sont reconnus depuis le XIXe siècle comme puissance protectrice des chrétiens. Les Britanniques visent la Palestine, la mer Rouge et le golfe Persique. Il s'agit, entre autres pour eux, de sécuriser la route des Indes, qui passe par le canal de Suez. Donc les visées politiques, économiques, stratégiques des uns et des autres vont servir le plan de l'Éternel. C'est dans ce cadre que l'action sioniste en faveur de la création d'une colonie de peuplement en Palestine sous mandat d'une grande puissance intéresse le Royaume-Uni. Dès 1915, le leader sioniste britannique Chaim Weizmann entreprend de convaincre la direction britannique de l'intérêt pour elle de soutenir la cause sioniste au départ sans grand succès. En 1916, Les accords secrets, Sykes-Picot, entre la France et le Royaume-Uni divisent l'Empire ottoman en cas de victoire et accordent au Royaume-Uni les zones qu'il convoite. En 1917, Lord Balfour, représentant le gouvernement britannique, adresse à Lord Lionel Walter Rothschild une lettre, la Déclaration Balfour, par laquelle il indique que le Royaume-Uni est favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Cette lettre n'est pas un engagement juridiquement contraignant, mais elle représente un formidable encouragement pour le sionisme. La lettre semble avoir eu deux objectifs. Avancer dans la constitution d'une colonie de peuplement pro-britannique près du canal de Suez et se rallier les juifs américains alors que le Royaume-Uni essayait à tout prix de convaincre les États-Unis d'entrer en guerre à ses côtés. Donc là, avant même que la guerre soit finie, avant même que l'Empire ottoman soit disséqué en petits morceaux, on se rend compte que les juifs, eux, ils restent pas inactifs, ils se rendent bien compte qu'ils ont beaucoup à gagner politiquement en s'engageant aux côtés des alliés. Comme beaucoup de juifs étaient partis aux États-Unis et que c'est devenu un lobby puissant aux États-Unis, les juifs ont profité de ça. Ils ont dit, ok, nous, on va faire pression du côté des États-Unis pour vous soutenir, vous, dans votre guerre en Europe, mais vous, en contrepartie, vous nous soutenez politiquement pour nous installer en Israël. Et une espèce de marché comme ça, tacite, qui se fait entre les Anglais, puisque c'est eux qui convoitent la partie ottomane qui contient Israël, et les Juifs leur disent, bon, vous donnez un coup de main, mais vous, vous nous donnez aussi un coup de main, et les Anglais acceptent. La déclaration Balfour est par contre mal reçue dans le monde arabe, tu m'étonnes. Selon l'expression d'Arthur Koestler, une nation promettait solennellement à une seconde nation que le pays d'une troisième, il est aussi à noter que les Britanniques avaient déjà promis à Hussein Ibn Ali, shérif de la Mecque, la création d'un grand royaume arabe unitaire sur le Moyen-Orient. Il s'agissait d'obtenir la contribution militaire des nationalistes arabes allée à l'affaiblissement de l'Empire ottoman. Ça, c'est l'histoire de Laurence d'Arabie. La déclaration de Balfour était donc en contradiction avec cette première promesse. Donc là, on se rend compte que les Anglais avaient tout promis à tout le monde, pourvu que ça servait à leurs intérêts. Ils ont donc dit, les Juifs ont dit aux Anglais, si on vous aide, si vous nous donnez une partie des territoires que vous allez conquérir. Et les Anglais ont fait la même proposition aux Arabes. Ils ont dit, aux Arabes, si vous nous aidez à combattre les Ottomans, on vous donnera donc à vous aussi votre indépendance une fois qu'on aura disséqué l'Empire ottoman. À ce niveau-là, les futurs conflits à venir étaient déjà contenus dans l'attitude des Anglais. En promettant aux deux parties le même pays, il ne pouvait qu'y avoir un gros problème. Une nation promettait solennellement à une seconde nation le pays d'une troisième. Absolument formidable. C'est le meilleur moyen d'entrer en conflit plus tard. Fin 1917, poursuivant les troupes ottomanes en retraite, les Britanniques prennent possession de la Palestine. Prise de Jérusalem le 11 décembre 1917. Ils y restent jusqu'en 1948. Alors, la population juive passe de 83 000 à la fin de 1918 à 164 000 en 1930, puis 460 000 en 1940 et 650 000 lors du vote de la création d'Israël en 1947. On se rend compte qu'à partir de ce moment-là, les Juifs vont s'engouffrer dans la brèche. Fort de l'accord de Balfour, ils vont littéralement investir le pays. Alors, donc les Anglais au début ont dit, bon d'accord, on tient plus ou moins parole avec vous, vous nous avez aidés, soutenus, donc ils avaient des quotas d'immigrants qui leur permettaient de venir en Israël. Les Juifs, poussés par les événements un peu à droite à gauche, ont très largement dépassé les quotas. Donc au début, ça s'est relativement bien passé avec les Anglais parce qu'il n'y en avait pas trop qui arrivaient. Mais comme les quotas étaient dépassés, voire submergés, donc ça a très rapidement créé des conflits avec les Anglais parce que les Juifs arrivaient en masse, mais illégalement dans le pays. Ça venait de tous les côtés, par mer, par terre, de tous les côtés. Et les Anglais étaient largement dépassés par les événements. Ils essayaient de faire tant soit peu ce qu'ils pouvaient pour contenir tout ça parce qu'ils avaient les Arabes sur le dos. Mais le mouvement était enclenché, surtout le Seigneur le voulait, et ce n'était pas la petite Angleterre qui allait l'arrêter. À compter de 1939, les Britanniques réduisent fortement le nombre de visas accordés aux Juifs voulant se rendre en Palestine, alors même que la pression sur les Juifs d'Europe devient intenable avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et surtout avec le début du génocide juif en 1941 et 1942. Donc, les Anglais ferment la porte juste au moment où il aurait fallu l'ouvrir. En février 1919, je reviens un peu avant la Seconde Guerre mondiale, les représentants sionistes à la conférence de la paix de Paris demandent donc l'octroi d'un mandat sur la Palestine au bénéfice du Royaume-Uni, dont il apparaissait comme les alliés privilégiés. Bah ouais, on vous a aidé, donc maintenant, hein, on veut quelque chose. Les puissances alliées se rangent à ce choix lors de la conférence de San Remo en avril 1920. Le mandat britannique est officialisé par la Société des Nations en juillet 1922. Le mandat indique que le Royaume-Uni doit placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettent l'établissement d'un foyer national juif et le développement d'institutions d'autogouvernement. Elle doit également faciliter l'immigration juive et encourager l'installation compacte des juifs sur les terres. Donc, les prémices de ce qui est l'ONU d'aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque la Société des Nations, parce qu'après la Première Guerre mondiale, on s'est dit qu'il faut qu'on s'organise un petit peu pour éviter que ça se reproduise. Ils ont donc créé la Société des Nations, et cette Société des Nations, cette pré-ONU, a donc donné mandat aux Britanniques d'organiser un petit peu l'installation des Juifs en Palestine. À compter de 1939, et plus encore en 1941, l'Allemagne nazie s'empare de vastes territoires peuplés de millions de Juifs. À partir de 1941-42 commence un génocide qui verra la mort de 5 à 6 millions de Juifs. La période est donc critique pour le judaïsme mondial, et cette crise vient s'ajouter à celle du sionisme à partir du Livre blanc de 1939. Bon, les Livres blancs, ce sont des textes qui sont publiés durant le mandat britannique en Palestine, et ils sont une série de lois et de mesures fixant la politique mandataire relative à la situation en Palestine. Ben, c'est un petit peu des textes que les Anglais ont mis en place pour dire ce que les Juifs doivent faire, et dire aussi combien de Juifs peuvent venir en Palestine. Mais bon, de toute façon, les Juifs n'en tiendront très peu compte et feront un peu ce qu'ils veulent. Après la défaite de l'Allemagne nazie, deux questions deviennent prioritaires pour le mouvement sioniste. La question des réfugiés de Juifs d'Europe, survivants du génocide, dont beaucoup veulent partir d'Europe, et la question de la création d'un État juif en Palestine. L'exécutif sioniste entre dans l'affrontement avec les Britanniques entre 1945 et 1947. En 1947, le Royaume-Uni décide de remettre le mandat qu'il détenait de la Société des Nations aux Nations Unies, qui en sont le successeur. Il semble que le gouvernement britannique espérait obtenir un plus grand soutien international pour son rôle en Palestine. Mais l'ONU décide de mettre fin au mandat. Donc là, il y a une évolution qui s'est faite dans les mentalités. Puis, ça s'est concrétisé avec la chute de l'Empire ottoman. Les accords Balfour ont donc, comment dire, scellé un pacte entre les Juifs et les Anglais qui permettait aux Juifs de venir s'installer en Palestine. Mais il ne s'agissait pas encore d'un État, hein. Il s'agissait simplement de venir s'installer dans un pays qui était sous mandat britannique. Et après la Seconde Guerre mondiale, les choses vont se précipiter. En 1947, l'ONU décide de revenir au projet de la commission Peel de 1937 en partageant la Palestine. Parce qu'il y avait déjà une idée qui flottait dans l'air, c'est de partager le pays en deux, les Juifs d'un côté et les Arabes de l'autre. Mais cet accord n'a jamais été mis en place et les deux communautés se sont mélangées. Mais là, Société des Nations, enfin l'ONU, décide de revenir à l'idée de base de deux communautés séparées. Les Juifs se voient attribuer 55% du territoire, plus que dans le projet initial de Peel. Jérusalem devient une zone internationale. Les Arabes se voient attribuer le solde, un peu plus de 40% du territoire. Dès le vote du partage par l'ONU, en octobre 1947, des incidents se produisent qui se transforment vite en guerre civile. Les Arabes attaquent les Juifs. La Haganah se maintient au départ dans une attitude défensive. Mais le Stern et l'Irgun, qui avaient cessé les attaques anti-arabes depuis 1939, reprennent les attentats contre les civils sans obtenir de résultats politiques ou militaires notables. Violence arabe et violence juive frappent les civils des deux camps. À compter de fin mars 1948, la Haganah réorganisée passe à l'offensive. En 6 semaines, les bandes arabes sont vaincues. Les groupes armés juifs prennent le dessus. Des villages arabes commencent à se vider de leur population dans les zones de conflit les plus dures. Le 15 mai 1948, Israël proclame son indépendance pendant que les derniers Britanniques quittent le pays. Les Arabes palestiniens sont militairement vaincus et ne seront plus guère présents sur le devant de la scène politique jusque dans les années 60. Donc là, on bascule. Les choses se sont faites progressivement. Hein, on peut dire, pendant 100 ans, se développe une idée. Une idée qui va devenir le sionisme, c'est-à-dire la recherche d'un pays où s'installer. Et après, pendant 50 ans, cette idée va prendre corps. Et petit à petit, les Juifs vont partir, de droite et surtout des pays de l'Est et tout ça, et vont venir s'installer d'abord par petits groupes, toujours plus nombreux, en Israël. Et, à un moment donné, une fois qu'ils seront très nombreux, la guerre civile éclate, ils proclament unilatéralement un État souverain. Et l'ONU suit et accorde effectivement un nouveau statut aux Juifs qui sont installés là-bas, et décrète la naissance de l'État d'Israël. Maintenant, ce qu'on a vu là, c'est la manière dont est née une nation, avec ses soubresauts, avec ses convulsions. On a vu que plus on se rapprochait du moment de la naissance, et plus les choses sont devenues extrêmement difficiles. Au début, les Juifs étaient disséminés à droite à gauche dans le monde. Ils subissaient régulièrement des pogroms, subissaient régulièrement des attaques. On les massacrait régulièrement pendant le Moyen-Âge, mais c'était jamais... La visée n'était pas d'anéantir le peuple. C'était surtout des histoires d'argent. L'Église catholique jouait sur les superstitions, l'Église catholique jouait sur différents modes pour détourner la colère du peuple ou les superstitions du peuple vers les Juifs. Plutôt que de reconnaître leurs propres erreurs, on orientait ça sur les Juifs, c'était tellement facile. Donc s'il y avait la peste, s'il y avait une guerre, s'il y avait ceci, c'est la faute aux Juifs, allez hop, on les massacre. Et à un moment donné, une idée naît au milieu de ce peuple. Il serait peut-être temps que les choses changent maintenant, avec les nationalismes qui grandissaient dans le monde. Forcément, les Juifs, ils veulent aussi une nation. Et plus ils approchent de l'échéance, où l'État d'Israël va apparaître en tant que nation, plus les difficultés grandissent. Et on se rend compte que ce qu'ils ont connu au Moyen-Âge, c'était vraiment pas grand-chose. Puisqu'après ça, quand on arrive dans le XXe siècle, un siècle soi-disant civilisé, c'est là que la plus grande barbarie de tous les temps va apparaître. C'est là que les gens vont se massacrer par millions, et les Juifs vont en faire les frais. Parce que eux, pareil, ils vont disparaître par millions. Un tiers de la population juive va disparaître. Et donc, c'est au milieu de ces immenses souffrances, quand on est au paroxysme des douleurs, que la nation d'Israël naît. Donc là, des convulsions qui vont à un moment de souffrance extrême, et c'est dans ces moments de souffrance extrême que enfin un monde nouveau part. Alors ça, c'est pour les Juifs. On se rend compte que un peu de choses près, la même chose, on peut le transposer au niveau du monde entier. On a vu que les choses ont évolué d'abord au niveau de la pensée, au niveau des idées. C'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Il y avait des grands penseurs qui ont développé des idées nouvelles de liberté, de nation, de démocratie, de république. Ça a apporté la révolution, La révolution s'est diffusée dans toute l'Europe, mais il y avait toujours encore des royaumes, il y avait toujours encore des monarchies. Et ça, ça va changer aussi. La Première Guerre mondiale, principalement déroulée en Europe, de 1914 à 1918, fut un des événements marquants du XXe siècle. Cette guerre, parfois qualifiée de totale, a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle a mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de morts et plus de destruction matérielle que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant cette guerre, environ 10 millions de personnes sont mortes et environ 20 millions sont devenues invalides. Là, on se rend compte qu'on est vraiment dans des douleurs extrêmes. Mais là, c'est le monde, et là principalement l'Europe. Cette guerre a amené de profonds changements géopolitiques, lesquels ont profondément modifié le cours du XXe siècle. Elle a causé l'effondrement ou la fragmentation des empires austro-hongrois, russes et ottomans. L'empire allemand a disparu et l'Allemagne a vu son territoire réduit. Conséquemment, les cartes de l'Europe et du Moyen-Orient ont été redessinées. Des monarchies ont été remplacées par des États communistes ou par des républiques démocratiques. Pour la première fois, une institution internationale a été créée dans le but de prévenir les guerres, la Société des Nations. La Société des Nations était une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919, lui-même élaboré au cours de la conférence de paix de Paris en 1919, dans le but de conserver la paix en Europe après la Première Guerre mondiale. Là, on se rend compte un petit peu qu'on marche dans les Écritures, hein. Quand on dira « paix, 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 une ruine soudaine s'abattra sur vous ». Et ça, c'est les prémices de l'enfantement d'un monde nouveau. On est en plein dans les Écritures. Hein, ce que je vous ai lu au début, les versets que je vous ai lus au début, vous pouvez maintenant progressivement les intégrer dans l'histoire. C'est pas fini, hein. Là, nous avons eu une première contraction. C'est la Première Guerre mondiale. Maintenant, on va avoir une autre bien plus violente, la Seconde Guerre mondiale, provoquée par le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale, de la crise financière de 1929 et par les ambitions expansionnistes et hégémoniques des trois principales nations de l'Axe, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon, elle consista en la convergence à partir du 3 septembre 1939 d'un ensemble de conflits régionaux respectivement amorcés le 18 juillet 1936 en Espagne, le 7 juillet 1937 en Chine, c'est la guerre sino-japonaise, et le 1er septembre 1939 en Pologne, c'est la campagne de Pologne. Le conflit planétaire ainsi généré opposa schématiquement deux camps, les Alliés et l'Axe. La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités sur quelque 22 millions de kilomètres carrés et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. N'opposant pas seulement des nations, la Seconde Guerre mondiale fut la première grande guerre idéologique de l'histoire, ce qui explique que les forces de collaboration en Europe et en Asie occupées aient pu être solidaires de pays envahisseurs ou ennemis, ou qu'une résistance ait pu exister jusqu'en plein cœur de l'Allemagne nazie en guerre. Guerre totale, elle escamota largement la distinction entre civils et militaires et vit la mobilisation complète des ressources économiques, humaines et scientifiques des deux camps, y compris des vassaux de l'Axe, mis en coupe réglée. La somme des dégâts matériels n'a jamais pu être chiffrée de façon sûre. Mais il est certain qu'elle dépasse les destructions cumulées de l'ensemble des conflits communs dans le genre humain depuis son apparition. Vous vous rendez compte? La Deuxième Guerre mondiale, cette seule guerre, a détruit plus de choses que toutes les guerres depuis que le genre humain existe. Le traumatisme moral ne fut pas moins considérable. la violence ayant pris des proportions inédites. Parmi ces crimes figurent la déportation en camp de concentration, camp de travail, camp de la mort, comportant des chambres à gaz à des fins d'extermination de populations entières, juifs, slaves, tziganes, ou de catégories particulières d'individus, homosexuels, témoins de Jéhovah, handicapés, etc., commandés par le régime nazi. Le régime Shoah ne fut nullement reste en Asie avec à son actif 10 millions de civils chinois enrôlés de force par la Kuai-in en Manchukuo, environ 200 000 femmes de réconfort enrôlées en Corée, et dans tout l'Extrême-Orient, ainsi que l'annihilation systématique de populations civiles, principalement en Chine, et notamment lors du massacre de Nankin. La Seconde Guerre mondiale promeut les États-Unis et l'URSS, principaux vainqueurs, comme les deux superpuissances appelées à dominer le monde pour près de 40 ans. Elle accélère l'affaissement de l'Europe, qu'elle occupe politiquement, la coupant en deux, et le processus de décolonisation en Asie, dans le monde arabe, puis en Afrique, achevé au début des années 60. Là, on se rend compte que la Seconde Guerre mondiale transforme profondément le monde. Il le coupe pratiquement en deux blocs. Deux blocs qui trouvent leur césure en Europe. L'Europe est partagée en deux. Nous avons d'un côté les Occidentaux, et de l'autre côté, on a les Russes, on a les communistes, et de l'autre côté, on a les capitalistes. Et cette guerre, d'une certaine manière, va aussi marquer la fin de la colonisation. C'est-à-dire, l'Asie va être libérée de la tutelle des pays coloniaux, la France, l'Angleterre, ainsi que l'Afrique. Donc, c'est avec la Deuxième Guerre mondiale, les nations arrivent à leur maturité, arrivent à leur statut définitif, c'est-à-dire d'être reconnues pour ce qu'elles sont. Les peuples sont reconnus pour ce qu'ils sont reconnus en tant que nation. Il n'y a pas uniquement Israël qui accède à son statut de nation et qui reçoit une terre, mais c'est dans le monde entier qu'il y a une transformation qui se fait. C'est avec la fin de la colonisation, le monde se transforme et se découvre une nouvelle vie. Les convulsions de la Seconde Guerre mondiale ont amené un monde nouveau, qui est le monde des nations, qui trouve son expression dans l'ONU, où aujourd'hui on a plus de 160 nations qui sont représentées. On peut dire que le colonialisme, aujourd'hui, il a disparu. Voilà, je vais achever sur ça. Ainsi, on a vu, dans un premier temps, comment le monde a évolué sur deux siècles.